Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Merci de nous être fidèles tous les week-ends. Au sommaire jusqu'à 13h, dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis 30 ans d'histoire en débat. C'était le 9 novembre 1989, 30 ans jour pour jour que tombait le mur de Berlin. Et un grand face-à-face donc à la fin de la semaine spéciale que France Inter consacre à cet événement. Moment fondateur pour la démocratie européenne pour les uns, point de départ d'une violence sociale de grande ampleur pour les autres. Il suffisait d'écouter Jean-Luc Mélenchon dimanche dernier sur notre antenne et Daniel Cohn-Bendit le lendemain pour mesurer la température très élevée dès que l'on évoque le souvenir de la chute du mur et ses conséquences dans de nombreux esprits. Pour en débattre, rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec une voix longtemps familière aux auditeurs d'Inter. Journaliste, reporter passionné, il a vécu dans l'ivresse de l'histoire pour reprendre le titre de l'un de ses livres. Il est aujourd'hui député européen Renew. Bernard Guetta est l'invité du Grand Face-à-Face.
France Inter, le Grand Face-à-Face, Ali Badou.
Et le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver. On va revenir sur l'actualité de la semaine. Et dans la semaine, il y a eu notamment ça.
Quand j'entends qu'on peut nous proposer des quotas, mais c'est à supposer que lorsque les quotas ne sont pas respectés, on est la main pour les faire respecter. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc je ne propose pas une politique idéologique en matière d'immigration. Je propose une politique efficace menée avec nos partenaires européens. C'est cela notre projet.
Notre volonté, c'est de faire des choix en matière d'accueil. Fixer des objectifs quantitatifs ou des quotas en matière d'immigration professionnelle.
C'était le candidat Emmanuel Macron en janvier 2017 et le Premier ministre ce mercredi quand Édouard Philippe présentait les mesures phares de la politique migratoire du gouvernement. Réponse au débat qui s'est tenu au Parlement le mois dernier à la demande du président de la République. Quota, réforme de l'aide médicale d'État, lutte contre les fraudes, on va en parler. C'est un grand classique, Natacha. Essayer de trouver l'équilibre entre humanité et fermeté en matière d'immigration, équilibre qui tient selon vous après les annonces d'Édouard Philippe?
Alors déjà, première chose, l'équilibre entre humanité et fermeté, c'est exactement ce dont on nous avait parlé au moment de la loi Collomb. Donc visiblement, l'équilibre n'a pas dû être complètement trouvé puisqu'il faut y revenir.
La loi Asile et Immigration votée au début du quinquennat.
Deuxième chose, on voit immédiatement les levées de boucliers dès qu'est prononcé le mot quota. Le problème n'est pas qu'une politique de quota sur les immigrés économiques soit monstrueuse ou choquant. Le problème, c'est que ça ne règle absolument rien et que c'est totalement infime par rapport à la réalité de l'immigration. C'est-à-dire qu'en gros, en 2018, on a 33 000 entrants pour des motifs économiques qu'il faut mettre en regard avec tous les immigrés qui viennent pour des causes familiales, qui sont autour de 80 000, si je ne me trompe. Il y a les étudiants. Et puis, il y a, on peut l'évaluer à ça, 300 000 immigrés en situation illégale sur le territoire. C'est en tout cas ce qu'on peut penser étant donné le nombre de bénéficiaires à l'aide médicale d'État. Donc on voit bien que tout cela n'est qu'une goutte d'eau. Ça n'est ni monstrueux ni choquant, c'est juste pas le problème, quoi.
Gilles Finkelstein.
Ouais. Alors, on peut avoir une lecture, la lecture technique, l'analyse technique des annonces du président de la République et du gouvernement. Si je devais les résumer, c'est gros klaxon, petit moteur.
Qu'est-ce que ça veut dire?
On parle fort avec des objectifs très élevés, reprendre la maîtrise comme si on l'avait totalement perdue et comme si on allait totalement la reprendre. Et quand on regarde les mesures elles-mêmes, c'est un extraordinaire bricolage de mesures qui avaient pour beaucoup déjà été annoncées, pour certaines qui vont dans le bon sens, l'augmentation de l'aide publique au développement ou l'augmentation du nombre des étudiants étrangers dès lors que l'on investit davantage dans l'université, ça me paraît bien.
Mais la question des quotas.
Et d'autres dont je crois qu'elles vont dans le mauvais sens, ou en tout cas qu'elles sont inefficaces. C'est vrai de la question des quotas. Vous vous souvenez que lorsque Nicolas Sarkozy était président de la République, il avait commandé à Pierre Mazeaud un rapport. Je vous dis simplement la première phrase de ce rapport. Une politique de contingent migratoire limitatif, c'est-à-dire une politique de quotas, serait sans utilité réelle en matière d'immigration de travail inefficace contre l'immigration irrégulière et s'agissant d'autres flux incompatibles avec nos principes constitutionnels et nos engagements européens et internationaux. Donc ça va, par ailleurs, quand vous lisez les 20 propositions, les 20 mesures, ce sont des quotas qui sont des quotas facultatifs. Hein, le plafond peut être dépassé. Donc ça touche une partie marginale aux alentours de 10% de l'immigration et ça va ne régler les questions que de manière marginale. D'où petit klaxon.
Gros klaxon, petit moteur. Ce sera l'expression de la semaine, Natacha.
Oui, mais ce que je trouve consternant, c'est que on peut constater qu'on n'est toujours pas capable d'avoir en France un débat apaisé sur les questions migratoires. C'est tout de même assez dingue dans la mesure où j'ai l'impression, moi, de revivre les oppositions et les débats qu'on pouvait avoir il y a 20 ans. Il est nécessaire de parler d'immigration, non pas pour dire que c'est bien ou que c'est mal, mais parce que c'est un fait. C'est un fait, il y a de l'immigration. C'est un fait, cette immigration pose certains problèmes, notamment, selon moi, parce que n'a pas été corrélée une véritable politique d'intégration, et pour d'autres raisons qu'on pourrait lister, mais il y a en effet une nécessité d'essayer de penser correctement les choses. On voit bien que ne pas le penser, ça aboutit à des drames humanitaires, à des scandales qui sont une honte pour un pays qui se prétend un pays civilisé. Donc parlons-en de façon posée et parlons-en sans sous-entendu accusatoire sur le thème xénophobie, racisme. Ça n'est pas la question. La question, c'est comment on organise correctement ce qui est un fait.
Gilles Finkelstein. Je suis d'accord. Le problème, c'est que la manière dont le débat se noue depuis maintenant quelques semaines, je disais, il peut y avoir une lecture technique.
Oui, mais il y a aussi des questions de principe.
L'essentiel, c'est qu'il n'y a que, principalement, une lecture politique à faire des annonces qui ont été faites. C'est qu'il y a une obsession du président de la République, qu'on peut comprendre pour des raisons purement tactiques, qui est de ne pas laisser d'espace sur son flanc droit. Et donc, son obsession, et à mon avis, l'objectif réel des annonces, c'est fidéliser l'électorat républicain. Ce n'est pas du tout, comme on a pu le croire, d'essayer de reconquérir l'électorat lepiniste, c'est fidéliser l'électorat républicain qui a rejoint La République En Marche à l'occasion des élections européennes.
Mais il n'en a pas eu besoin de parler de cette question comme ça pour conquérir le pouvoir en 2017.
Non, il en a pas, vous avez raison. Et c'est le sujet sans doute sur lequel Emmanuel Macron a le plus évolué entre le Emmanuel Macron ministre, le Emmanuel Macron candidat et le Emmanuel Macron président, y compris le Emmanuel Macron président dans première période et deuxième période, c'est parce que la structure de son électorat a beaucoup changé.
Alors, je ne dirais pas que c'est le sujet sur lequel il a le plus évolué, parce qu'on va peut-être en parler tout à l'heure, mais il est quand même très très mouvant sur beaucoup beaucoup de sujets par rapport à ce qu'il était comme candidat. En revanche, évidemment que la structure de son électorat a changé, le paysage politique a changé, et on s'aperçoit donc que, à défaut de conviction, il y a en effet du doigt mouillé le matin pour savoir comment préparer 2022. Je n'appelle pas ça de la politique.
J'ajoute une phrase, jusqu'à l'absurde, parce que l'interview à Valeur Actuelle est à la fois incompréhensible et par ailleurs injustifiable. Quand on est président de la République, l'endroit où on s'exprime, on légitime aussi le média. Et je crois que ça fait vraiment tâche.
Et peut-être contre-productive.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Ça va de juste essayer de commencer par survivre. Après avoir une colère qui part un peu dans tous les sens, y compris contre soi-même. Ensuite, commencer à ouvrir des conversations avec des gens qui considèrent que l'affaire est un problème, en fait. Et de se dire pour soi-même, effectivement, c'est grave ce qui m'est arrivé. Donc c'est un cheminement ultra long. Et puis il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça, en fait, aussi que je parle. C'est parce que, en fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi.
C'était la voix de la comédienne Adèle Haenel, cette semaine interviewée par le site Mediapart. Elle témoignait du harcèlement, des agressions sexuelles dont elle a été victime et elle a désigné son agresseur, le réalisateur Christophe Ruggia. Un témoignage fort qui a ému, bouleversé beaucoup. Qu'avez-vous ressenti en le découvrant, Natacha?
La question de savoir que ce qu'on ressent est déjà en soi complexe puisqu'on place immédiatement les choses sur le plan de l'émotion. Or, il y a un réel problème en France d'agression contre les enfants. parce que, de fait, une petite fille de 12 ans, c'est une enfant. Et je pense que c'est un sujet majeur à traiter. Et en effet, la protection de l'ensemble de la société doit être absolue. Une fois qu'on a dit cela, une fois qu'on a parlé aussi des difficultés pour la justice de traiter ces affaires-là, la justice en effet est lente, est complexe et n'aboutit pas toujours. Une fois qu'on a dit ça, je suis gênée de la tournure que prend le débat et de cette idée qui est en train de s'installer comme une évidence que parce que la justice est trop lente et pas toujours satisfaisante, il faudrait se passer de la justice et remplacer cela par une sorte de tribunal de l'opinion. Parce que le principe de la justice dans une société civilisée, c'est qu'elle permet d'entendre tous les récits, de reconstruire une vérité à partir de la diversité des récits. Or, partir du principe qu'on pourrait n'avoir qu'un seul récit et que ce serait légitime, me semble éminemment dangereux.
Gilles.
Oui, d'abord, ce qui est frappant, c'est une parole très réfléchie. C'est une parole réfléchie au sens où, elle vient de le dire dans l'extrait que vous avez passé, elle considère que son statut actuel lui donne la possibilité de parler parce qu'elle est maintenant suffisamment installée. Très réfléchie parce que c'est un discours politique au sens noble du terme, et aussi réfléchie parce qu'il y a une volonté protectrice derrière, puisque ce qui a été le déclencheur de sa prise de parole, c'est le fait que le réalisateur en question allait tourner une suite avec d'autres adolescents. Donc, c'est la première chose moi qui me frappe. Deuxième chose, Natacha Polony a raison. Par bien des aspects, ça ressemble à tout ce que l'on a entendu depuis le début de MeToo, quand on se place du point de vue des auteurs des actes. En revanche, du point de vue de la victime, ce qui est nouveau, c'est ce que Natacha a souligné, c'est le fait que, en l'occurrence, c'était une enfant, c'était une toute jeune adolescente. Et donc, ce dont il est question, c'est de pédophilie.
Dernier point. Et que ce n'est pas une dénonciation qui est faite sur Twitter, mais dans Mediapart, après une enquête de plusieurs mois.
Absolument. Après, pour le coup, après une belle enquête de Mediapart. On peut parfois remettre en cause les journalistes. Là, c'est un beau travail qui a été fait. Après, ça pose exactement la question que Natacha a posée, qui est celle de médias contre justice. Du point de vue d'Adèle Haenel, je trouve qu'on peut comprendre le choix qu'elle a fait. Sa parole n'est pas remise en cause. Quand elle s'exprime dans les médias, elle le sera nécessairement, en tout cas elle sera discutée devant un tribunal. La sanction morale et médiatique est immédiate, elle sera longue et hypothétique dans le cadre judiciaire. Mais du point de vue de la société, ça doit nous interroger, et ça doit interroger d'abord la justice elle-même. Le fait que des victimes puissent venir préférer de s'exprimer devant les médias plutôt que d'aller devant la justice, c'est un problème. Et c'est un problème y compris parce que Adèle Haenel a la possibilité d'aller devant les médias. Pour celles qui n'ont pas la possibilité de le faire, c'est un problème
c'est
encore
ce qu'elle dit.
Beaucoup
elle
plus
parle
important.
Pour celles-là aussi.
Oui, mais elle parle pour celles-là
et encore
en
un
leur,
mot avant de passer
en leur
au débat.
Offrant une voix qui, à mon avis, est une voix problématique pour nous tous. Et le problème n'est pas Adèle Haenel. En effet, Gilles a raison, son point de vue se comprend parfaitement. Le problème est l'ensemble de la machinerie médiatique autour qui cautionne l'idée que la justice ne servirait plus à rien et qui s'arroge le droit de se substituer à la justice au nom d'un choix qui est un choix totalement hémiplégique, à savoir cette idée que, dans tous les cas, on ne doit pas écouter la parole de l'accusé. Je crois que c'est une dérive un peu dangereuse.
À suivre dans le Grand Face-à-Face, l'histoire en question avec Bernard Guetta.
Le Grand Face-à-Face sur France Inter.